I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, 19h, ravi de vous retrouver ce soir. Notre ami Simon Guilin est souffrant, mais Adrien Spiteri est là pour les infos du soir. Bonsoir.
Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Les services secrets occidentaux et ukrainiens sont directement impliqués dans l'attentat près de Moscou. C'est ce qu'affirme le patron des services de sécurité russes. L'attaque qui a fait 139 morts vendredi a pourtant été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Hier, Vladimir Poutine a admis pour la première fois que les assaillants présumés étaient des islamistes radicaux. Sébastien Lecornu prévient l'industrie de défense française. Le ministre des Armées appelle à produire plus d'armements et plus vite en raison de la guerre en Ukraine. Il n'exclut pas de faire des réquisitions ou de faire jouer le droit de priorisation. Des mots prononcés lors d'une conférence de presse aujourd'hui en présence de tous les chefs d'état-major. Et puis les obsèques de Frédéric Mitterrand ont eu lieu cet après-midi à Paris, en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le neveu de François Mitterrand est décédé jeudi à l'âge de 76 ans. Plusieurs personnalités, dont la ministre de la Culture Rachida Dati, étaient présentes aujourd'hui. Lui-même avait occupé cette fonction au cours de sa carrière.
Merci mon cher Adrien. Et au sommaire ce soir, l'éducation nationale est-elle à genoux? L'éducation nationale a-t-elle perdu la face par rapport au port du voile dans les établissements scolaires? On apprend que le proviseur de l'établissement Maurice Ravel, menacé de mort il y a un mois pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile, a dit quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le recteur a évoqué quant à lui des convenances personnelles. Que comprendre? Hier, Gabriel Attal déclarait que l'islamisme n'était pas une religion. Pourquoi nos politiques font-ils de la théologie? L'édito de Mathieu Bocoté. Il y a eu maquillage des comptes du pays et c'est d'une grande gravité, a déclaré Olivier Marleix. Vous avez menti aux Français. On savait dès le mois d'octobre qu'il manquait 30 milliards, ajoute le président du groupe LR à l'Assemblée nationale qui accuse Bruno Le Maire notamment. Depuis ce matin, on en met les chiffres INSEE du déficit de la dette 2023. Ils sont catastrophiques, 5,5% de déficit l'an dernier, c'est bien plus que prévu. En quoi cette dégradation des finances publiques affaiblit-elle la position de la France en Europe? L'analyse de Dimitri Pavlenko. Même en France, il y a eu de longues files d'attente pour la présidentielle du Sénégal. C'est Bassirou Diomaye Faye qui remplace Macky Sall. C'est la première fois en 12 ans qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Le nouveau président vise la réconciliation nationale dans un pays déchiré ces derniers mois au niveau sociétal, économique et politique. Jean-Luc Mélenchon a tenu à applaudir cette victoire, pourvu que les Français sachent faire aussi bien que les Sénégalais le moment venu. Rappelons que le Sénégal est un pays anti-LGBT, anti-avortement, avec des valeurs bien différentes de la France, tout en étant un pays ami. Que comprendre? Le regard de Marc Menant. Orléans n'a pas vocation à accueillir à la colline du crack de Paris, s'alarme le maire de la ville. Depuis bientôt un an, la ville a reçu à l'insu des autorités municipales environ 500 migrants SDF transférés depuis Paris. Ce n'est pas la première fois qu'un maire s'oppose à cette répartition, notamment dénoncée et en vue des Jeux Olympiques, souvent sans l'accord des maires en question. Faut-il s'en inquiéter? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, effondrement et décadence. Mathieu Bocoté reviendra sur la signification de la dégradation des finances publiques à travers l'histoire. La dette qui s'écrase contre un mur. Pourquoi est-ce si important de s'alarmer de nos finances publiques? Pourquoi, depuis Rome, un État qui perd la maîtrise de ses finances est un État engagé sur la pente de la décadence? Le précieux édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti. D'abord, des images de Nice, puisque hier soir, il y a eu quelques scènes de violence dans un certain quartier. On va en parler tout à l'heure. Et des échauffourées ont recommencé cet après-midi. Éric Ciotti s'en est ému. On fera un tour de table dans un instant, puisque La ville de Nice est quand même en proie à des scènes de violence en plein jour, où des jeunes se battent avec des couteaux, des marteaux. On y revient dans un instant et on fera un tour de table. D'abord, Mathieu Bock-Côté, je le disais en titre, est-ce que l'éducation nationale est à genoux ? On ne comprend pas. L'éducation nationale, est-ce qu'elle a perdu face au port du voile dans les établissements scolaires ? On en avait parlé ici. Le proviseur de l'établissement, Maurice Ravel, menacé de mort il y a un mois parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. Il quitte ses fonctions pour des raisons de sécurité. Le rectorat, de son côté, dit que c'est pour des convenances personnelles. Très sincèrement, ça fait un choc. Que comprendre ?
Chose première, on nous dit des questions de sécurité. D'accord, mais sécurité parce qu'il y a un agresseur potentiel, parce qu'il y a une menace potentielle. Comment nommer cette menace potentielle ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette menace potentielle ? On se rappelle les circonstances de base. C'est un homme qui veut simplement faire appliquer le règlement, qui veut faire appliquer la règle, qui est pour cela menacé. De nombreux gens qui ont la même fonction que lui, proviseur, directeur, se décident de se lier avec lui pour protester contre les menaces régulières qui sont faites sur le terrain de l'éducation nationale. Par quoi ? Par l'islamisme. L'islamisme conquérant, l'islamisme qui pénètre les institutions, l'islamisme qui impose sa loi, l'islamisme qui a le moyen désormais de faire suffisamment peur à un homme pour qu'il quitte ses fonctions. Vous l'avez noté, je dis islamisme et non pas islam. Parce que comme plusieurs, je prends la peine de distinguer islamisme et islam. Je ne dis pas que les deux... Je ne suis pas de ceux qui pensent que les deux se confondent. Mais dire que les deux ne se confondent pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre eux. Or, que nous a dit Gabriel Attal, et j'y reviendrai dans un instant, il y a quelques jours, finalement, que l'islamisme n'avait absolument rien, n'est pas une bonne religion, il nous dit, donc ça n'a pas de contenu religieux, donc finalement, c'est même pas une idéologie presque, c'est tout autre chose. Donc non seulement l'islamisme n'est pas l'islam, mais l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam.
Lui, il dit, ce n'est même pas une simple idéologie, c'est une spirale, un engrenage de la haine qui se nourrit de notre naïveté qui veut tuer la République. Et je le redis ici, l'islamisme n'est pas une religion.
Tout autant de mots pour ne pas caractériser une chose. Or, est-ce que Gabriel Attal est seul responsable de ce déni ? La réponse, c'est non. Et il faut faire un petit cours d'histoire sur 25 ans, très rapide, des deux côtés de l'Atlantique, pour voir d'où vient ce déni devant l'islamisme. Point de départ, et on y revient toujours pour notre époque, le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, on le sait, Al-Qaïda, Ben Laden, lance une attaque destructrice qui entraîne la chute du World Trade Center, une attaque contre le Pentagone. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça ? C'est une déclaration de guerre de l'islamisme contre l'Occident. On veut, je précise que ceux qui mènent la guerre ne la mènent pas au nom de l'islamisme, mais de l'islam. Mais nous, on dit de l'islamisme parce qu'on fait la distinction contre l'Occident. C'est la frappe inaugurale qui aurait dû nous réveiller, qui aurait dû nous dire « Huntington n'avait pas complètement tort, choc des civilisations et peut-être même des religions, il y a ». Mais les Américains, à ce moment-là, sous la présidence de George W. Bush, décident, et de ce point de vue, ce déni inaugural est américain, décident de ne pas voir ce qu'ils ont devant les yeux. Et plutôt que de parler d'une attaque de l'islamisme contre les États-Unis ou contre l'Occident ou contre le monde chrétien, parce que les islamistes le disent encore une fois, ils se revendiquaient de la mémoire des croisades. Et bien, que se disent les Américains ? Ils disent non, en fait, l'ennemi devant nous, c'est l'axe du mal. Très rapidement, un discours apparaît début 2002, donc quelques mois après le 11 septembre, après avoir dit la terreur, l'extrémisme, le danger, le fanatisme, on dit l'axe du mal. Donc, plutôt que de nommer l'enjeu centrale, cette frappe de l'islamisme, on s'en souvient à partir d'un discours de David Frum, qui était le rédacteur de George W. Bush. On dit en fait non, il y a le vrai danger, c'est l'axe du mal, et à l'époque on nous dit c'est la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Alors là, on dit oui, mais quel est le lien avec Ben Laden et l'Afghanistan ? Eh bien, ça ne sera qu'un détour finalement, parce qu'on le sait, deux ans et demi plus tard, les Américains, pour répondre, on en parlait hier, à une frappe islamiste contre eux, décident finalement de s'en prendre non seulement à l'Afghanistan et aux talibans, très bien, c'était la base arrière, mais au régime irakien. Donc dans une théorie générale de l'axe du mal, où on nous dit, et là c'est le temps, c'est la guerre, alors comment on va nommer ça ? Est-ce que c'est la guerre contre l'islamisme ? Ça aurait été un terme adéquat. Est-ce que c'est même la guerre contre le mal ? Ça aurait été un peu... C'est très américain, hein. Mais non, c'est même pas, c'est le war on terror, la guerre contre la terreur. Donc les camps, dans les circonstances, c'est la civilisation ou la démocratie ou l'état de droit contre la terreur. Donc, au moment de l'acte inaugural qui marque l'entrée de l'islamisme partout en Occident sur le mode de la frappe massive, nous décidons, comme civilisation, de le nier en ne le nommant pas. Cadeau des Américains 2001. Mais cela dit, les Américains ne sont pas seuls dans le monde anglo-saxon et il va y avoir une deuxième étape au déni en 2008. En Grande-Bretagne, cette fois, un homme militaire est agressé, est assassiné par un islamiste, encore une fois. Il est assassiné. Donc, comment caractériser cet assassinat par un islamiste? Eh bien, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Jackie Smith, moi, ça m'avait marqué à l'époque, ça n'a jamais cessé de me tourner en tête, dit « C'est tellement un crime contraire aux valeurs de l'islam. » C'est-à-dire, et là, elle dit « On a parlé à des musulmans partout dans le monde, c'est contraire à leurs valeurs. » Que cet assassinat, ce crime islamiste, est en fait un crime anti-islamique. C'est un crime anti-islamique, nous dit la ministre de l'Intérieur, donc la Gérald Darmanin de l'époque chez les Britanniques, hein, nous dit « C'est un crime anti-islamique. » Donc là, vous voyez, Orwell est avec nous. Donc vous avez un crime commis au nom de l'islam et nos autorités décident de dire que c'est un crime anti-islamique parce que trahissant les vraies valeurs de l'islam. 2013, de la même manière, donc on attend un attentat, David Cameron nous dit, en Grande-Bretagne, ce n'était pas seulement une attaque contre la Grande-Bretagne et le mode de vie britannique, c'était aussi une trahison de l'islam et des communautés musulmanes qui apportent tant à notre pays. Rien dans l'islam ne justifie un acte épouvantable. Tel acte aussi épouvantable. Fin de la citation. Donc, encore une fois, le premier ministre britannique se fait interprète et théologien. Il sait, lui, lorsque quelqu'un dit « Je vous frappe au nom de l'islam », je sais, quant à moi, quelle est la vraie motivation de l'assassin, et ce n'est pas l'islam. Je note, soit dit en passant, je faisais référence à 2008, on avait proposé en Grande-Bretagne, à ce moment-là, de remplacer la référence aux djihadistes. On disait « djihadistes », c'est marqué. On va les appeler des criminels, plutôt. Donc, la volonté de neutraliser va loin. Et là, des exemples comme ceux-là se sont multipliés avec le temps. Et là, on a Gabriel Attal, bien évidemment, qui reprend. Donc, c'est pas très original ce qu'il nous dit. L'islamisme, c'est pas de religion, c'est rien de tout ça. C'est tout autre chose, mais tout autre chose qu'on va... En fait, on va multiplier les mots sans jamais le nommer, sans jamais le caractériser. Et là, le problème, c'est que la culture populaire a fini par comprendre qu'on lui cachait un petit quelque chose. Hein. Si l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, comment la culture populaire a réagi devant ça? Avec un mot très efficace, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Donc, dès qu'il y avait un crime commis par l'islamisme, on disait, ah, mais pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. C'était une autre... En fait, c'est un terme qui est pré-Mathéo et Kevin. C'est un terme qui est pré... On connaît ce vocabulaire aujourd'hui à la mode. Donc, c'était une manière de dire, on a compris, vous nous dites le contraire, on vous envoie le message qu'on a compris. Mais que se passait-il au fil des ans, lorsqu'on était devant un attentat où la dimension religieuse était explicite, indéniable, on ne pouvait rien faire, elle était là, c'était impossible de dire le contraire. Dès lors, on sortait la machine à amalgame, mais sur un autre registre. Orlando, 2016, aux États-Unis toujours, quand un type qui se réclame de l'État islamique ouvre le feu dans une boîte de nuit qu'on associe au milieu homosexuel, mais que, dit-on, en fait, l'homophobie est au cœur de toutes les religions monothéistes. Islam, christianisme, judaïsme. Dès lors, à ce moment-là, pour ne pas incriminer l'islam ou l'islamisme, on dit, dans les faits, c'est la faute des trois monothéismes qui ont le même rapport à la religion. Et je me rappelle, sur un plateau français à l'époque, quelqu'un avait dit, vous savez, entre ça et la manif pour tous, il y a une forme de continuité, c'est simplement plus extrême à Orlando qu'à Versailles. Donc là, c'est génial. Pour ne pas avoir à nommer l'islam ou l'islamisme, on décide d'intégrer les catégories la religion en général, les trois monothéismes, et finalement, si quelqu'un décide de massacrer des gens à Orlando, c'est la faute des dames qui portent des carrosses à bébés à Versailles et qui manifestaient au moment de la manif pour tous. Alors, on est dans cette espèce de moment un peu étrange. Et j'ajoute une chose qui n'est pas sans intérêt, c'est que nos politiques, finalement, se présentent comme des théologiens. Ce sont des théologiens. Ils savent, eux, ce qu'est le vrai islam, ce qu'est le pas vrai islam. Ils savent à quel moment l'islam est en question, à quel moment l'islam ne se présente pas à nous. Mais si on leur demandait, petite question, mais si vous parlez des tueurs en question, des assassins, des meurtriers, qui disent on agit au nom de l'islam, ils prétendent le faire. Je ne dis pas c'est tout l'islam, mais prétendre le faire. Que faire de ces gens? Est-ce qu'on pourrait savoir comment fonctionner? Donc moi, j'ai une proposition, en fait, c'est que Gabriel Attal, dans les circonstances, peut devenir soit professeur en déradicalisation ou imam pour nous expliquer ce que serait, dans les circonstances, le vrai islam pour savoir avoir quelqu'un, enfin, pour distinguer le vrai et le faux islam et l'islamisme et les suites.
N'arrive-t-il pas aussi aux politiques de se faire psychiatre en plus d'être théologien?
Ah, mais ils ne manquent pas de talent, ces gens. Donc là, effectivement, il y a les théologiens, Hein, vrai islam, faux islam.
Hier, j'ai quand même bien aimé le mot naïveté, hein, quand même, dans cette phrase de, pleine d'amalgame.
Vous avez tout à fait raison, on se satisfait de peu. On est tellement habitué à se faire raconter des bobards que si quelqu'un nous dit 2 plus 2 égale peut-être 4, on se dit oh, franchement, c'est un homme courageux. Et, alors, dans les circonstances, oui, la référence à la psychiatrie, donc le politique psychiatre, apparaît devant le djihad du quotidien. Donc, devant le djihad du quotidien, donc, vous savez, ces gens qui, portés par un appel soudain, décident d'aller poignarder leur prochain en disant, ben oui, c'est on m'a demandé d'aller flinguer, décapiter, trucider, assassiner quelqu'un avec ce poignard, l'égorger, tout ça. Alors là, immédiatement, l'argument du dossier psychiatrique apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce n'est pas, encore une fois, religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion, du tout. Niet, pantoute, comme on dirait au Québec. Ce qu'on voit ici, c'est tout simplement un dérèglement psychique. Et là, c'est l'appel au psychiatre. Mais encore une fois, le politique se fait psychiatre avant même que le psychiatre n'apparaisse. Et de temps en temps, le psychiatre nous dit, finalement, c'est pas vraiment mon domaine de compétence. Ce type savait ce qu'il faisait. Ce qui est assez inquiétant. Il arrive que le politique se fasse aussi sociologue. Ça, c'est assez embêtant. D'autant que c'est une profession pas si recommandable. Or, que font les politiques sociologues? Alors, ils arrivent en disant, vous savez, devant tant de misère, tant d'exclusion, tant de racisme, tant de discrimination, de telles manifestations, de telles émeutes, de telles violences sont inévitables, mais ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la religion. Merci, ils nous rassurent. Théologiens, sociologues, psychiatres, ils sont tout sauf politiques.
À travers tout cela, Mathieu Bocoté, ne sommes-nous pas encore une fois devant un phénomène de déni réalité.
Mais c'est le mot qui caractérise l'époque. On comprend pourquoi. Hein. C'est la peur, en fait. La peur nous dit, on est devant des gens qui se disent, bon, on a accepté, on a consenti à l'arrivée massive de millions de personnes qui se réclament de l'islam dans nos sociétés.
Peur de qui, peur de quoi, c'est ça?
Ben, je pense peur du soulèvement, peur du choc des civilisations. Si le choc des civilisations est réel, s'il existe, eh bien, manifestement, on a tout fait pour l'importer dans nos murs. On pourrait dire, les Russes l'avaient déjà vécu à cause de la géographie très particulière de leur civilisation depuis longtemps. Nous, on a tout fait depuis 50 ans pour créer les conditions de ce choc en l'important chez nous. Et je pense que beaucoup de politiques se disent, on ne peut pas accepter la possibilité même de cela, donc on décide de détourner le regard. Mais c'est à ce moment, puis la seule chose qu'on fait, on met en garde la population locale contre sa propre intolérance devant l'islam, qui est religion de paix en toutes circonstances et qui n'a rien à voir avec ce qu'en disent ceux qui la pratiquent souvent. C'est ça qui est original quand même. Nous sommes devant des gens, ici en Occident, qui ne croient plus en Dieu, et on explique à des gens qui croient en leur Dieu de quelle manière ils devraient y croire et à quel moment c'est vraiment leur Dieu et à quel moment ils se trompent. C'est assez original quand même. Nous sommes tous théologiens aujourd'hui. Alors, mais on pourrait simplement poser une question. C'est-à-dire, j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui est le vrai et le faux islam? Par exemple, lorsque dans certaines personnes disent au nom de l'islam, je refuse de serrer la main d'une femme. Est-ce que c'est de l'islam ou de l'islamisme, de l'idéologie, de la religion? Lorsque on se retrouve devant quelqu'un qui refuse les, vous savez, les piscines mixtes. Islam, islamisme, autre chose. Si on se retrouve, quand on a un attentat au nom de l'islam. Islam, islamisme, autre chose. Est-ce que l'islam politique a quelque chose à voir avec l'islam? Est-ce que l'islam radical a quelque chose à voir avec l'islam? Et finalement, est-ce que l'islam a quelque chose à voir avec l'islam? Je serais curieux, finalement, devant tout cela.
Merci infiniment, Mathieu, pour votre analyse, brillante analyse. On va passer à la dette. J'adore quand vous parlez de la dette. Non, mais on va commencer par écouter Olivier Maralex, mais... Je sais pas, il avait un petit quelque chose de plus, cet Olivier Maralex, aujourd'hui. On l'écoute.
Tous les pays de l'Union européenne ont connu le Covid. La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%. L'Espagne y arrive, l'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union européenne, les seuls à connaître cette déroute financière.
Je ne crois pas que ces pays n'aient hérité d'une situation comparable à la nôtre quand le président de la République a pris ses fonctions. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Reprenez le niveau de déficit. Premièrement. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'au sein de tous ces pays, il y ait eu 2 millions d'emplois créés en net ces 5 dernières années et un taux de croissance qui se maintient à un niveau beaucoup plus élevé que les autres voisins. Sachons aussi reconnaître les bonnes nouvelles et ce qui fonctionne dans notre pays. Encore une fois, c'est pour les salariés, pour les entreprises.
Aïe, 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 on ne comprend plus rien, Dimitri. Bah,
c'est très clair pourtant.
Non mais oui, non mais il y a eu maquillage des comptes, a dit Olivier Maralex. Il a eu du maquillage des comptes, c'est d'une grande gravité, on a menti aux Français. Bon, en tout cas, bon, depuis ce matin...
600 milliards d'euros de dette sous Nicolas Sarkozy en 5 ans.
Alors attendez, attendez.
900 milliards.
Vous permettez que je vous lance quand même juste que je puisse avoir...
J'ai entendu beaucoup d'âneries en fait toute la journée.
Alors vous allez nous dire tout voilà. Ça m'intéresse. Des âneries. Il est dans les starting blocks, on va lâcher le cheval. Ouais. Dimitri, donc depuis ce matin, donc on a... Non mais en plus on adore votre sens de la pédagogie. On a en main les chiffres de l'INSEE du déficit et de la dette 2023. Ils ne sont pas bons. 5,5% de déficit l'an dernier, plus que prévu. Les finances publiques françaises se dégradent. Et vous nous dites, Dimitri, donc que ça affaiblit la position de la France en Europe. On veut tout comprendre.
Oui. Alors déjà, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Gabriel Attal en réponse à Olivier Marleix, parce que c'est révélateur de l'état d'esprit, si vous voulez, de la Macronie sur ce sujet. En gros, il nous dit... qui c'est qui a créé 2 millions d'emplois ici, dans la salle? C'est moi. Et vous voyez, en fait, le logiciel macronien, c'est de dire, créons de l'activité, créons des emplois, vu qu'on est incapable de baisser les impôts, vu qu'on est incapable de réduire la dépense publique, créons de l'activité, ça fait rentrer de l'impôt, et comme ça, bah, quelque part, ça rend tolérable la dette et le déficit. Vous voyez, c'est cette logique-là. On ne sait pas faire de l'austérité, on ne sait pas faire de la rigueur en France, on n'est pas des Allemands. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'activité, on va faire de la croissance, et ça compensera finalement nos carences sur le plan de la gestion budgétaire. Le problème étant que cette année, malheureusement, ça fonctionne pas. Regardons un peu la note de l'INSEE pour commencer, pour savoir de quoi on parle. Alors, d'abord, cette note, c'est la première évaluation des comptes nationaux de l'année écoulée. C'est le document qu'en fait, on va transmettre à la Commission européenne pour lui notifier notre situation comptable. C'est notre bilan comptable de l'année. Dans les prochaines semaines, Bercy va doubler donc ce document d'un autre qui s'appelle le programme de stabilité actualisé, le PESTAB, comme on dit dans le jargon de Bercy. Donc, c'est-à-dire, en fait, le programme de stabilité, maintenant, quand on fait des plans budgétaires sur 5 ans, une logique un peu Gosplan, plan quinquennal, 2023-2027, et on réajuste chaque année. Donc voilà, on va pouvoir dire à Bruxelles, bon, on s'est un peu trompé sur nos prévisions de croissance, sur nos prévisions de déficit et de dette, on réajuste, mais l'objectif est inchangé. Bruno Le Maire l'a encore répété ce matin avec un grand aplomb, il nous a dit, c'est toujours de ramener le déficit public français en 2025, donc en 2027, pardon, sous la barre des 3%. Bon, on va reparler de ces fameux 3%. Alors, on va regarder les chiffres, le déficit, vous l'avez dit, 5,5%. Rappelez-vous, la semaine dernière, on nous avait préparé à 5,6. Donc, sous-entendu, c'est un peu moins grave. On a donc un écart par rapport à la prévision initiale de 4,9, un écart de 0,6 points. Alors, je vous rappelle, à force, ça va finir par rentrer. Un point de PIB, c'est 30 milliards. Donc, 0,1 point, c'est
3 milliards.
3 milliards. Donc, 0,6 points, ça veut dire... On s'est quand même planté 18 milliards d'euros dans le déficit. Ce n'est pas anecdotique, 18 milliards. Alors, si on traduit ça en bons euros, 5,5% de déficit, ça fait 154 milliards que l'État a dépensé en plus que ce qu'il a levé comme impôt.
154 milliards.
Voilà. C'est l'équivalent, c'est pratiquement une année de recettes de TVA. C'est un an et demi de recettes de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le costaud là. Alors, il n'y a pas de mystère à ce déficit. Hein. C'est que, je vous l'ai dit, on dépense trop. Et le signe de cela, c'est quoi? C'est que la croissance, l'an dernier, n'a été que de 1%, alors que la dépense publique, elle, pendant ce temps-là, elle a progressé de 3,7%. Et encore, l'INSEE nous dit, bonne nouvelle, ça ralentit par rapport aux années précédentes, cette croissance, année après année, de la dépense publique. Alors, voyons maintenant le chiffre de la dette. Donc la dette, on rappelle, c'est le stock cumulé de tous ces déficits qu'on a depuis 50 ans. Cette année, c'est un bel anniversaire. C'est le 50e anniversaire des budgets déficitaires. Depuis 50 ans, chaque année, l'État, comme ça, sédimente du stock de plus en plus de dettes. Et donc, on est à 3101 milliards 200 millions d'euros de stock de dette, c'est-à-dire 110,6% du PIB, c'est-à-dire la richesse annuellement créée. Il faut un an... Et un mois et demi, aujourd'hui, il faudrait qu'on dépense toute la richesse qu'on crée en un an et un mois et demi. Voilà ce qu'il faudrait consacrer pour rembourser l'intégralité de notre dette. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça.
Hein. C'est catastrophique. Alors, dans un instant, on va marquer une pause et on va voir comment... et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Espagnols, ils y arrivent. Pourquoi les Allemands, ils y arrivent. Pourquoi les Portugais, ils y arrivent. Et puis nous, on fait cocorico, mais voilà, on n'arrive pas du tout à s'organiser au niveau du déficit. On en parle, on marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info dans un instant avec Marc Menon. On ira au Sénégal avec le nouveau président sénégalais, avec Charlotte Dornelasson. On ira à Orléans. Orléans qui n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris, nous dit le maire. Et on terminera avec vous sur, pour compléter la chronique de Dimitri sur la dette, avec parce que selon vous, depuis Rome, un pays qui ne sait pas gérer ses finances et un pays en décadence, c'est ce que vous allez nous dire. Revenons avec vous, Dimitri. Deuxième Très route. Intéressant. Comment ?
Deuxième roue.
Deuxième roue, hypercute. Dimitri, quelles vont être les conséquences de ces mauvais comptes ? Où est-ce qu'ils nous situent au niveau européen ?
Alors, en termes de dette, avec nos 3101 milliards, on est 25e sur 27. En termes de ratio dette sur PIB, hein, pas en volume, hein, voyez, le ratio dette sur PIB, je rappelle toujours, c'est ce que représente la dette par rapport à la richesse nationale que nous créons. Donc nous, on est à 110,8%. Les Grecs sont derrière nous, eux, ils sont à 160% encore. Hein, mais ils perdent 10 points de dette quasiment tous les ans. Donc ça va vite.
Ouais. Ils s'améliorent.
Ils se désendettent rapidement. L'Italie est à 145% de ratio de dette sur PIB. En termes de déficit, alors là, on n'est plus 25e sur 27, on est 26e sur 27. On est avant-dernier. Il n'y a que les Italiens qui font pire que nous. Eux, ils sont à 7% de déficit. Alors, les Espagnols, vous les avez cités, ils sont revenus à 3,7%. Donc, c'est pas mal. Les Pays-Bas, ils sont à 0,3%. Ils sont presque à l'équilibre. Il y a plus de 10 points de la dépense publique par rapport à la richesse nationale. Nous, on est à 56%. Les Néerlandais sont 10 points en dessous, ils sont à 46%, c'est gigantesque. Et le Portugal, vous l'avez cité, alors qui, rappelons-le, était quand même sous la tutelle du FMI en 2011, hein. Ils sont en excédent budgétaire, 1,2% de leur PIB, c'est quand même incroyable.
Excédent budgétaire, ouais, ça ouais, existe.
Ouais. Et ils avaient dit on fera 0,6% d'excédent, ils ont fait 1,2, donc c'est quand même colossal. Et on a tous pris le même choc Covid, parce qu'on peut mettre ça sur la dette, oui, il y a le quoi qu'il en coûte, etc., les prêts garantis par l'État, etc. Mais tout le monde a fait pareil en réalité. Sauf qu'on voit que les écarts sont en train de se creuser. Les Allemands, alors eux, ils ont ramené déjà leur déficit à 2%. D'ici deux ans, leur dette, ils vont la ramener sous la barre des 60% de leur PIB. Il y aura 50 points de différence entre eux et nous sous deux ans, compte tenu des trajectoires actuelles. Alors, il faut dire concernant les Allemands que cet effort de rigueur, ça leur a sans doute coûté la croissance. Ils ont fini l'année en récession. Et d'ailleurs, c'est le grand reproche qui est adressé par les Européens aux Allemands, c'est de dire, vous les grands brûlés de l'inflation, là, des années 20, il serait temps quand même de sortir de tout ça. Vous êtes des pingres en matière de dépenses publiques, les autoroutes sont dans un état lamentable, les infrastructures, vous avez vu l'histoire du pont à Baltimore qui s'effondre. Bon, là, c'est un bateau qui rentre dans la pile, mais en Allemagne, ils ont des problèmes de ponts qui s'effondrent parce que tellement c'est mal entretenu. Mais les routes aussi. Voilà. Alors, donc, le reproche européen qui est fait aux Allemands, c'est de dire, investissez, dépensez, faites de la commande publique pour stimuler votre croissance. Et c'est parce que vous savez, c'est toujours l'arbitrage. Est-ce que la dépense publique en soi, c'est mauvais ? Pas forcément. Dans la logique française, la dépense publique, ça fait de l'activité, ça fait de l'emploi, ça fait des rentrées fiscales. Mais vu les chiffres que je vous ai présentés, 5,5% de déficit, 1% de croissance, on va aller faire la leçon aux Allemands, là, vous leur expliquer que la dépense publique, c'est génial, que ça fait de la croissance. Ils vont nous rironner. Et c'est ce qu'ils font, ils nous rironner. Et donc, vous voyez, les conséquences de notre inconséquence budgétaire, elle est là. C'est-à-dire que la parole française est complètement décrédibilisée. Hein, on ne peut pas faire la leçon, on ne peut pas expliquer aux autres comment il faut gérer son économie, le rôle d'un État dans une économie libérale. On est très mal placé pour expliquer ça. Donc voilà la conséquence. Et l'autre conséquence au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on va tout droit vers une nouvelle procédure pour déficit excessif. Vous savez, cette procédure, cette sorte de père fouettard allemand, le père fouettard européen dont l'ADN est allemand, va nous tomber dessus là, dans les jours, les semaines qui viennent.
Alors, est-ce que l'Union européenne va nous mettre à l'amende concrètement ?
Oui, parce que normalement, l'aboutissement d'une procédure pour déficit excessif, c'est ça, c'est une amende. En réalité, on n'en a jamais eu. Par exemple, nous, les Français, on a été en procédure pour déficit excessif de 2009 jusqu'à 2018 de manière continue. Ça n'a eu aucune conséquence pratique. On n'a jamais payé à l'Union européenne pour le fait qu'on avait du mal à rester sous les clous de ce fameux seuil des 3%. Alors, d'autant que là, on vient de réactiver le fameux pacte de stabilité qui avait été suspendu pendant le Covid, avec de nouvelles règles qui intègrent le fait que c'est aussi une des leçons de la guerre, c'est une leçon du Covid, du vieillissement de la population, c'est que l'idée de la rigueur pour la rigueur, avoir un budget en équilibre, c'est bien, oui, sauf qu'il faut quand même dépenser massivement pour la défense, pour le vieillissement, l'adaptation de la société au vieillissement, pour la transition énergétique, pour l'intelligence artificielle, tout ça coûte des milliards et des milliards. On a intégré dans le logiciel européen qu'il fallait comment dire, faire crédit aux États qui avaient des dépenses qui étaient nécessaires, les fameuses dépenses d'investissement. Ce n'est pas toujours évident hein, de faire le distinguo entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Le salaire des profs, c'est de la dépense de fonctionnement ou c'est de la dépense d'investissement? Vous voyez, ce n'est pas toujours évident en fait, de catégoriser comme ça. Mais bon, je crois qu'il faut surtout craindre la sanction des marchés, parce que vous savez, on vit un peu sur cette petite chanson de « ça n'aura aucun impact ». Moi-même, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, c'est vrai, l'histoire prouve que quand on perd le triple A il y a 10 ans, un an plus tard, on a une moins bonne note en 2013 qu'en 2012, la France s'endette à moins cher un an plus tard. Vous voyez, donc il y a cette possibilité que ça n'est pas vraiment de conséquences. Je crois quand même qu'il faut rester humble. Rappelez-vous l'exemple de Liz Truss, donc la première ministre britannique, qui a 18 mois, annonce un plan de baisse massive d'impôts qui est jugé non financé par les marchés. Et alors là, attaque sur la livre britannique, envolée du taux d'endettement des Britanniques, etc. Elle a dû démissionner. Alors, vous parliez d'amende. Oui, je pense qu'il y en aura une d'amende, mais elle ne sera pas pour l'État, elle sera pour les Français. Demain soir, Gabriel Attal est à la télévision. Il va nous annoncer une nouvelle architecture de l'assurance chômage. Ça va se traduire par, sans doute, une baisse de l'indemnisation ou de la durée d'indemnisation. Ce dimanche va entrer en vigueur le doublement de la franchise sur les médicaments. C'est-à-dire que vous ne paierez plus 50 centimes de votre poche sur chaque boîte de médicaments, mais 1 euro. Le remboursement des frais de taxi, si vous allez à un rendez-vous médical ou que vous revenez, ça c'est très important pour les taxis, pour les personnes âgées. Bon, ce sont des rentes de situation, notamment pour les taxis, mais c'est la paix sociale. Vous voyez, dès qu'on veut y toucher, ils sont capables de bloquer des villes entières. On va toucher à ça. Et alors, le grand terme, je vous l'annonce, à partir de demain, on va parler d'année blanche. L'année blanche, ça va être quoi? On va geler le barème dans l'impôt sur le revenu, en tout cas, c'est le projet. Rentrée fiscale espérée pour le gouvernement, parce que si vous bloquez le barème, que vous ne bougez pas les barèmes, mais que votre revenu augmente, vous changez de catégorie, donc vous paierez plus d'impôts sur le revenu. Donc l'augmentation, ce ne sera pas forcément une très bonne nouvelle pour votre impôt. Et puis, gèle aussi du point d'indice, probablement pour les fonctionnaires et pour les retraites. Ça, c'est une économie espérée pour les finances publiques de 15 milliards. 15 milliards plus 4 milliards 5, ça fait les 20 milliards que Bruno Le Maire cherche pour l'année prochaine. C'est quand même formidable.
On va suivre ça de près, mon cher Dimitri. Année blanche. On va suivre ça. Il n'y a pas d'année noire? Non, toutes les autres années sont noires.
On voit rouge.
On a envie de se dire que la France a envie de prendre un certain, la France, entendons-nous bien, a envie de prendre un certain leadership au niveau européen. Mais quand on a des pieds d'argile comme ça, je ne sais pas comment on peut arriver à prendre ce leadership. À suivre. Dans un instant, je vais vous montrer, on fera un petit tour de table sur ce qui se passe à Nice, au quartier des Moulins, où il y a de nouvelles violences qui ont lieu cet après-midi avec des individus encagoulés qui se sont regroupés, qui se battaient entre eux. Des policiers sont intervenus, policiers blessés. On va essayer de comprendre quand même. Nice était quand même une ville tranquille, calme, sereine, sécurité. Ce n'est plus le cas, on en parle dans un instant. Marc Menant, on va parler un peu, on va franchir un petit peu, quitter un peu la France pour aller au Sénégal, quoique. On a vu des longues files d'attente en France, de Sénégalais qui vivent en France, qui ont voté pour le président de la République au Sénégal. C'est Bassirou Diomaye Faye qui remplace Macky Sall. On se rappelle toutes les difficultés qu'il y a eu pour qu'il puisse quitter le pouvoir, Macky Sall. Et c'est la première fois en 12 ans qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Il y avait une soif d'autre chose. Le nouveau président vise, dit-il, la réconciliation nationale dans un pays déchiré ces derniers mois au niveau sociétal, économique, politique. J'ai des amis sénégalais qui me racontaient comment ils se tuaient les uns les autres. Enfin, c'était vraiment l'anarchie sur place ces derniers temps. Jean-Luc Mélenchon, de ce côté, a tenu à applaudir en citant « pourvu que les Français sachent faire aussi bien que les Sénégalais le moment venu ». Et je le disais en titre, rappelons quand même que le Sénégal, même si c'est un pays ami de la France, ce ne sont pas tout à fait la même notion des choses. Un pays plutôt anti-LGBT, un pays plutôt anti-avortement.
Oui. Alors,
quel est votre regard sur tout ça?
Déjà le regard, on est très proche du Sénégal. C'est certainement l'un des pays africains avec lequel on a le plus de fraternité. Alors l'histoire commence en 1534. Hein, c'est François Ier. On a les Diepois sur leur petite barcasse qui partent de leur port et ils vont descendre et découvrir le Sénégal où déjà se sont installés avant eux les Portugais et les Hollandais. On va se faire une petite niche là et on s'enracinera. Et on ne peut pas penser au Sénégal sans avoir à l'esprit Dakar, Saint-Louis, Dakar-Saint-Louis, c'est la grande aventure de l'aéropostale, c'est la conquête des airs. Mermoz, Saint-Exupéry, ce sont des exploits invraisemblables. C'est de là que tout part. Et l'indépendance, elle intervient en 1960 avec comme premier président un homme formidable, j'ai eu la chance de le rencontrer, Léopold Sédar Senghor. Une prestance invraisemblable, un homme qui avait le goût de la culture, le sens de la langue. Il sera d'ailleurs académicien. Et ce sens de la langue française, il est inscrit dans la Constitution au Sénégal, car là-bas, la langue officielle, c'est le français. Alors, on pourrait dire cocorico, c'est formidable. Ah ! L'élite se régale avec le français. L'élite sent que grâce au français, elle peut conquérir. On a de très grands écrivains, dont Léopold Senghor d'ailleurs. Mais en revanche, il n'y a que 30% de la population qui parle le français. C'est l'élite. Et à l'école, on apprend le français. Dans les universités, il y a le français. En revanche, la langue qui est sème partout, c'est le wolof.
Nangadef, magnifique.
Ah ben voilà.
Alors, comment ça va, ça va bien. Ne me regardez pas comme ça.
Mais alors, je pense que c'est la non, même chose.
Si vous allez en vacances au Sénégal, vous apprenez quand même comment ça va bien.
Bah oui, oui, oui. Non mais, et je pense que c'est comme le créole, ce sont des langues parlées. Mais on n'écrit pas le wolof. Ce qui fait que tous les textes sont édités en français. Et il y a 30 langues officielles dans ce pays. Voilà pour ce qui les caractérise culturellement. Et quand vous avez les écrivains sénégalais, ils vous disent « Eh bien, c'est une chance et il nous faut nous défendre ». Pourquoi nous défendre ? Eh bien, parce que les États-Unis guignent sur le Sénégal, les Chinois également. Et il y a 4-5 ans, les Américains, pour dire « Ben voilà, on va vous aider à conquérir votre pays », linguistiquement, le wolof et d'autres langues, il faut qu'elles puissent essaimer. Ils ont fait éditer, pour distribuer dans les écoles, nombre de recueils dans toutes les langues, sauf en français. Parce que c'est un territoire que l'on vise. Il y a des richesses à venir. Et d'ailleurs, dans les programmes présidentiels, on pense que dans un an, on exploitera le gaz, le pétrole. Alors quand Mélenchon dit bravo, ce qui est extraordinaire, il peut dire bravo. Mais ce bravo ne correspond pas tout à fait à la réalité. Vous l'avez dit, le Sénégal, c'est un pays à 94% musulman, avec des groupes qui sont extrêmement influents. Vous avez des sortes de ligues arabes qui demandent même à ce que la peine de mort soit appliquée pour les homosexuels. Vous avez ici et là, de temps le pays, de temps en temps, l'enterrement d'un type dont on dit « attention, c'était un homo ». Et à ce moment-là, eh bien, on interdit qu'il puisse être enterré au cimetière. C'est un personnage infréquentable. L'avortement, pas question d'avortement, quels que soient les cas les plus critiques, même s'il y a une malformation, s'il y a viol, etc. Pas du tout. Là encore, c'est la prison qui vous guette. Alors, quand on se veut le chantre en France de la théorie du genre, quand on veut en France le chantre également de l'avortement, on a du mal à comprendre qu'il y ait cet enthousiasme parce que la mentalité sénégalaise, elle ne va pas changer du jour au lendemain, même si M. Bassirou Diou Maye Faye vient d'être élu. Notons au passage d'ailleurs qu'il est bigame. Et sa première épouse, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, on pourrait dire, ben c'est bien. Sauf que, eh bien, elle porte le voile. Je ne sais pas si sous influence, mais apparemment, théoriquement, une chrétienne ne porte pas le voile. Elle porte le voile. Et puis, il y a une deuxième épouse qui, elle, est musulmane. Alors, cet homme, il a 43 ans, il est dynamique, il représente l'espoir. Pourquoi ? Parce que c'est un pays extrêmement jeune, un pays qui a connu le chaos, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Un pays qui, dans la déchirure...
Personne ne s'y attendait, ces derniers mois. Personne ne s'attendait à ce que ce pays tombe à ce point-là.
Ah ben, oui, mais alors, bon, là, il faut...
Enfin, non, pardon.
Sans bien connaître la politique sur le terrain depuis quelques années. L'ex-président Macky Sall. Macky Sall a enfermé des journalistes. Il a fait interner, on peut le dire comme ça, Ousmane Sonko, qui était le principal opposant, qui s'est désisté au dernier moment et que l'on a accusé de viol et qui a été en prison à cause de cela. Il a fait en sorte que les élections doivent être reportées. Ce n'est qu'au dernier moment, devant la pression de la foule, qu'on a fini par dire « bon, bah, on tient l'élection, là, au mois de mars, un mois plus tard ». Et il n'y a eu que 15 jours de campagne. Le dernier point, pour revenir à la langue, c'est-à-dire que quand le nouveau président dit « nous serons un État souverain indépendant », il tient quand même à cette base culturelle. Or, et les filles, la base culturelle, les seuls qui n'aient pas, avec le PS et les Verts, qui n'aient pas voté contre la restriction de la langue inclusive il y a 2 mois, ce sont eux. Vous voyez, ils ont quand même raison sans doute de se réjouir, mais je ne vois pas où il y a véritablement des analogies entre leurs intentions et celles prêtées à Bassirou Diomaye-Faye.
On suivra l'évolution des relations entre la France et le Sénégal avec ce nouveau président, plutôt anticonformiste, et selon même les pays africains qui disent qu'il pourrait rendre les relations entre la France et le Sénégal plus compliquées qu'elles ne le sont déjà.
Bien qu'ils disent qu'ils veuillent qu'il y ait une pacification.
Oui, alors quand même, Léopold Sédar Senghor, si on peut montrer sa photo,
ah oui,
ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui a été un très grand président du Sénégal,
secrétaire général
de la francophonie, et Abdoulaye Wade, qui a précédé Macky Sall et maintenant Bassirou Diomaye-Faye. Ici, on voit Abdoulaye Wade. Merci infiniment pour cette petite parenthèse. Et j'aimerais vous montrer, avant de passer avec vous, Charlotte, sur les SDF ou les migrants. On ne sait pas ce qu'on dit, mais en tout cas, on va en parler, parce qu'il y a une petite bisbille à l'Assemblée nationale là-dessus, sur ces migrants qui arrivent à Orléans sans que le maire ne soit au courant. On en parle dans un instant. D'abord, quelques images de ce qui s'est passé à Nice, parce que cet après-midi, au Moulin, je vous le disais, à Nice, de nouvelles violences ont eu lieu. Des individus cagoulés se sont regroupés. Un individu a été frappé et blessé. Au conditionnel, les policiers sont intervenus et ont été la cible de projectiles. Aucun blessé a priori dans leur rang. D'autres informations disent qu'il y aurait eu quand même un blessé. Et voilà. Donc les échauffourées, on va dire, ont commencé hier et ont repris cet après-midi à Nice. Je voudrais vous faire écouter aussi, dans le prolongement de ce qui se passe à Nice, notre Bruno Le Maire, qui était en commission d'enquête aujourd'hui au Sénat et qui expliquait le lien entre narcotrafic et terrorisme. C'était quand même assez surprenant de l'entendre parler ainsi.
Je voudrais profiter de cette audition pour que chacun prenne conscience de la gravité de la menace que fait peser le trafic de stupéfiants sur la stabilité de la société française. Non seulement les deux phénomènes de narcotrafic et de terrorisme sont comparables dans leur intensité et la menace qu'ils font peser sur la France, mais ils sont liés. Je confirme les liens financiers qui existent entre le terrorisme et les narcotrafiquants.
Où va-t-on ?
Une observation. D'un côté, l'actualité d'une journée, c'est la possibilité de la guerre nucléaire, donc la guerre technologique la plus avancée, apocalyptique. Et de l'autre côté, c'est la guerre à coups de couteau et à coups de marteau dans les villes. Donc le retour à la guerre la plus régressive qui soit. C'est le paradoxe ou l'écartèlement des temps présents.
Moi, je suis assez surpris là, de son lien. Là. Il réactive l'islamo-délinquance. Vous vous rappelez, on nous avait dit que ça n'existe pas, c'est un mythe, etc. Le ministre confirme qu'il y a un lien entre le terrorisme et le trafic de drogue. Moi, j'ai hâte d'avoir qu'il nous présente les éléments de ce qu'il dit, parce que ça, c'est quand même une révélation. Hein.
Oui, pour autant, il est dans l'application de la chronique de Mathieu. On n'a pas entendu le mot islamisme ou islam. On a des terroristes de quoi ? On peut être terroriste de nombre de causes. Et puis, d'un autre côté, on a la drogue. Vous voyez, on est toujours dans ce déni total.
Moi, je me dis, quand j'entends ces auditions à répétition, heureusement qu'on les a. C'est-à-dire que je me dis, avant de faire des interviews, on devrait leur faire prêter serment. Peut-être Exactement. Que ça aiderait à avoir des interviews. Non, mais franchement, on apprend un nombre de choses dans ces auditions. Peut-être que finalement, ça a un impact. Le scrupule est finalement fort quand on prête serment. Piste à explorer.
Vous êtes resplendissante, Charlotte, ce soir. Hier, tout le monde a dit que vous n'avez pas de boucle d'oreille. Tout le monde a remarqué. Oui. Oui. C'était, il y avait une raison.
Aucune raison.
En tout cas, quand vous en ayez ou pas, c'est toujours l'illumination intelligence sur le plateau. Intelligence intellectuelle, tout ce qu'on veut. Écoutons, Charlotte, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi, justement, sur cette arrivée de migrants à Orléans. Et on entend la réponse donc, de Guillaume Gasparian, qui est ministre délégué au logement, qui répond, mais ce ne sont pas tous des étrangers ou des migrants.
Grâce à l'action de l'État, du ministère et des associations, 200 000 sans domicile fixe trouvent refuge et trouvent un toit dans notre pays. C'est 200 000 au niveau national, c'est 100 000 en Île-de-France. Malheureusement, étant donné la saturation des places en Île-de-France, tout le monde ne trouve pas de solution en appelant le 115. Et c'est pourquoi, sans aucun lien avec les Jeux Olympiques, dès mars 2023, le gouvernement a mis en place une politique de desserrement. Madame la députée, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'un maximum de sans-abri trouve un toit pour s'abriter. L'enjeu, ce n'est pas de trier les SDF en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine, comme le Front National semble manifestement le préconiser.
Tout est parti du maire d'Orléans, Serge Roy, qui a poussé un coup de gueule en découvrant l'arrivée des migrants dans sa ville. Comment cela s'est-il passé exactement, Charlotte Dornelas ?
Alors c'est vrai que Serge Roy, qui est maire d'Orléans, en a parlé, il a fait une conférence de presse pour expliquer la situation, mais il s'ajoute à un nombre incalculable de maires, d'ailleurs d'étiquettes assez différentes, on y reviendra, qui se sont inquiétés de cette répartition et surtout du fait qu'il ne soit pas informés de qui arrive dans leur ville, pour quelles raisons. Et alors, vous aviez raison tout à l'heure de dire, mais finalement, SDF, migrants, c'est pas très bien, parce que vous allez voir que le flou est entretenu sur la question, à dessein, à mon avis. Alors, Serge Roy, revenons à lui, parce que c'est lui qui a fait cet appel-là. Alors, j'ai appelé Serge Roy pour savoir exactement comment il a abordé cette question-là quand il a commencé à voir les choses. Alors, il dit, au début, j'ai entendu des bruits qui circulaient dans la ville. Ici et là, il rencontre des gens, maire d'Orléans, et il entend des bruits de personnes qui arriveraient de on ne sait pas trop où et qui arriveraient dans la ville et qui seraient dans la ville. Et notamment des plaintes des SDF connus, me dit-il, c'est-à-dire des sans-domicile fixe identifiés à Orléans, notamment par le biais de l'hébergement d'urgence, qui se plaignent de ne plus avoir de réponse quand ils appellent le 115. Donc vous voyez, là, vous commence à arriver la question. Il interroge à ce moment-là les services de l'État. Il dit, c'est son témoignage, hein, il dit qu'il n'a pas de réponse claire, qu'elles sont plutôt embarrassées et évasives sur qui sont ces personnes, pourquoi ils arrivent, dans quel cadre, etc. Alors, dit-il, il utilise les moyens qu'un maire a à sa disposition pour savoir ce qu'il se passe. Donc le tissu associatif, le tissu social, les acteurs de terrain, et il voit la réalité se dessiner sous ses yeux. Je le cite, là, ouvrez les guillemets, « Il existe un système organisé par l'État. Toutes les trois semaines, un quart part de Paris, emmène 30 à 50 SDF quelque part ailleurs. Ce sont essentiellement des migrants en situation irrégulière pour la plupart d'entre eux. » Fermez les guillemets. Alors, il explique que c'est une convention que l'État passe avec certaines associations. Et donc, l'association s'occupe de ces personnes. Et comme, et là, ça pour répondre au ministre du Logement, comme l'hébergement d'urgence dans l'agglomération orléanaise est déjà saturé, il y a entre 800 et 1000 places selon la période de l'année, donc c'est pas rien quand même. Comme il est saturé, eh bien l'État finance par le biais de ses associations des nuitées à l'hôtel directement, donc ils sont dans les hôtels. Voilà pourquoi le maire n'avait pas le nombre exact de personnes, puisque ça ne se faisait pas par le biais de l'hébergement d'urgence. Et alors c'est un système, nous dit-il, qui est provisoire. En gros, pendant trois semaines, ils sont logés à ce moment-là. Il nous dit, et ensuite eh ben, ils partent, ou alors ils retournent à Paris, ou alors ils se retrouvent dans la nature et on perd la trace de ces personnes. Alors, interrogé, je lui ai posé la question du poids sécuritaire éventuel de ces arrivées-là. pour savoir ce qui l'inquiétait, lui, comme maire. Et il me dit, il n'y a pas de chiffres directement de ces personnes-là. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Hein. Il a commencé à entendre parler de ça il y a plus d'un an. Et il dit, en revanche, vous savez, le maire d'Orléans avait énormément communiqué sur sa politique sécuritaire il y a 20 ans quand il était arrivé à Orléans. Il avait fait baisser la délinquance. Il dit, j'ai baissé la délinquance depuis le début de 81%. Il dit, on est passé de presque 9000 faits à 1600 faits de délinquance. Mais ces dernières années, depuis 3-4 ans notamment, la part d'étrangers, de nationalité étrangère à 100% impliqués dans la délinquance a augmenté. C'est 31% de la délinquance qui est étrangère cette année contre 26% il y a 3-4 ans. Donc il y a une implication pas directement des dernières personnes arrivées, mais évidemment une inquiétude pour le maire d'Orléans. Voilà le récit que fait le maire d'Orléans qui s'ajoute, et j'insiste là-dessus, à d'autres récits de maires qui ces derniers mois se sont inquiétés de voir débarquer des gens dans leur ville, parfois contre l'avis de la population dont ils ont la charge, sans être informé de l'arrivée de ces personnes.
Qui s'inquiétaient et qui s'opposaient même, on a vu, hein, cette répartition notamment dénoncée en vue des Jeux Olympiques. Mais que répond le ministère de l'Intérieur ?
Alors le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui sur le cas Serge Rouard, répond, il s'est adressé au ministère de l'Intérieur, mais ça n'est pas la bonne personne, puisque là en l'occurrence c'est une répartition des sans domicile fixe à qui on peut proposer une place en hébergement d'urgence. Et donc le dossier revient au ministre du Logement. Voilà pourquoi c'est le ministre du Logement qui répond sur cette question cet après-midi et lui dit, comme la préfecture du Loiret, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, c'était mis en place avant. Bon, mars 2023, les Jeux Olympiques étaient déjà dans la tête de tout le monde, je referme la parenthèse.
Il y a 10 ans déjà.
Mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le plan, en l'occurrence, a été pensé pour répartir cette question de l'hébergement d'urgence. Le ministre a raison de rappeler qu'il y a 200 000 places d'hébergement d'urgence en France. Ce gouvernement, enfin sous Emmanuel Macron, on a doublé ce nombre d'hébergements d'urgence. La question s'était posée de les réduire, parce que notamment pendant le Covid, on les a beaucoup augmentés. Et la question s'était posée de les réduire en 2023. Devant la levée de boucliers, notamment des associations, le gouvernement avait décidé de poursuivre en laissant un budget à 40 millions d'euros sur l'année pour maintenir le niveau d'hébergement d'urgence, quasiment à 200 000 places. Mais que constate-t-on que le doublement du nombre de places depuis 2017 s'est accompagné d'une augmentation considérable du nombre de personnes qui arrivaient de manière irrégulière. Et c'est là aussi on joue sur les mots, c'est que les personnes arrivent de manière irrégulière et une bonne partie d'entre elles, à l'arrivée, déposent une demande d'asile. Donc le ministère de l'Intérieur dit, par ailleurs, on ne parle pas de personnes en situation irrégulière, mais de demandeurs d'asile. Puisque, en attendant, ils sont arrivés de manière irrégulière, mais ils sont demandeurs d'asile. Et s'ils sont déboutés du droit d'asile, les téléspectateurs de Face à l'Info connaissent par cœur, c'est la même quand même. Donc, la question qui se pose de savoir où ces personnes finissent après être passées dans les sas d'accueil est légitime. Par ailleurs, je note qu'en plus de cette répartition au-delà de l'hébergement d'urgence, on avait entendu Emmanuel Macron lui-même, il y a un an, nous expliquer qu'il fallait aussi répartir les personnes, les demandeurs d'asile. Donc c'était dans le cadre de la même répartition, notamment pour étudier leur demande d'asile plus vite dans des centres locaux, régionaux, pour que leur étude soit plus rapide, avec plus de chances donc de les expulser, de les éloigner en l'occurrence, s'ils étaient déboutés du droit d'asile. Donc ces questions ont toujours été liées pour tout le monde. Et par ailleurs, sur le terrain, on constate que certes, c'est l'État qui paye, comme dirait l'autre, donc c'est les Français qui payent de toute façon à la fin, quoi qu'il arrive, hein, mais certes, c'est l'État qui finance, on va dire, la répartition de ces personnes, mais qui s'ajoute dans certaines agglomérations, dans certains départements plus exactement, à la question des mineurs isolés, dont la prise en charge revient au département. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de maires qui commencent à dire que ça fait beaucoup, avec des hébergements déjà saturés et un accueil déjà extrêmement fort. Et là, on avait entendu Bernard Carayon, notamment maire de Lavaur, qui avait lancé un appel aux maires de France pour s'opposer à cette répartition voulue par Emmanuel Macron, c'était il y a un mois seulement. Et ils accusaient en l'occurrence l'État de ne pas savoir gérer sa politique migratoire en amont et donc de l'imposer localement pour éviter d'avoir à la gérer. Et tous ont les Jeux Olympiques sur les lèvres, sauf évidemment le ministre du Logement et les préfectures qui sont chargées de cette répartition.
Alors c'est pourtant un projet que l'on ne découvre pas, comme on le disait, et qui avait été donc clairement évoqué, vous le disiez, par Emmanuel Macron il y a plus d'un an. Est-ce que c'est pas nécessaire de répartir ces SDF que Paris ne peut pas accueillir seul ?
Alors déjà, on voit qu'il y a une très forte proportion dans cet hébergement d'urgence, donc d'étrangers en situation irrégulière ou demandeurs d'asile, en l'occurrence, ceux qui sont pris en charge, la plupart du temps, sont demandeurs d'asile, en attendant d'avoir la réponse à leur demande d'asile. Je note une première chose, c'est qu'on nous dit qu'il est nécessaire de décharger Paris. Le maire de Paris, la maire de Paris, sinon j'ajoute l'insulte, Anne Hidalgo, au moment du vote de la loi immigration, bon, avant qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel, qui a fini par mettre tout le monde d'accord, mais avant ça, il y avait quelques curseurs qui avaient été déplacés, notamment sur cette question de l'éloignement. Qu'avait dit Madame Anne Hidalgo? Qu'il était hors de question qu'à Paris, cette loi soit appliquée, que ce serait une zone franche où la loi immigration ne serait pas appliquée. Donc il y a un moment où la maire de Paris peut peut-être essayer d'assumer, en l'occurrence, les conséquences de son opposition même à une loi qui ne réglait pas du tout le problème dont on est en train de parler, mais qu'essayer de réduire la pression. Première chose. Deuxième chose, la Cour des comptes elle-même expliquait que la moitié des places en hébergement d'urgence abritaient des personnes arrivées, je cite la Cour des comptes, de façon illégale. Donc clairement, les deux questions sont liées et la pression sur l'hébergement d'urgence est due à cette immigration irrégulière, au minimum, à l'arrivée. La dernière chose, c'est que le communiqué commun entre les ministères de l'Intérieur et du Logement disait il y a un an qu'il s'agissait de procéder à un examen de la situation administrative des personnes et de leur proposer une orientation vers un hébergement adapté à leur situation. Donc évidemment, c'est la différence entre les CADA, donc les fameux centres d'accueil des demandeurs d'asile, et la question de la répartition de l'hébergement d'urgence. Mais dans les faits, ces deux questions se mêlent en permanence pour peser sur les agglomérations, qui s'inquiètent et qui précisent par ailleurs qu'il y a un manque d'infrastructures et un manque de travail à proposer éventuellement à ces personnes-là. Donc même ceux qui nous expliquent que l'insécurité est due à des raisons sociales peuvent s'inquiéter de l'insécurité que génère une telle répartition sans en prévenir les acteurs, les élus et évidemment la population. N'y pensons même pas.
Merci pour votre regard, Charlotte. On va revenir un peu sur la dette avec un regard particulier. On en a parlé avec Dimitri sur l'État jugé par plusieurs, hein, qui a la mythe des finances publiques. Et c'est à cette question que vous voulez consacrer votre second édito, Mathieu Bocoté. Mais cette fois-ci, sous l'angle historique, sous l'angle sociologique, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Parce que pour vous, depuis Rome, c'est l'effondrement. Ah ben c'est le signe de l'effondrement.
Il y a une constante. Si on lit les grands textes romains, mais aussi, on pourrait se transposer à l'Ancien Régime ensuite, on ne se contente jamais de voir dans la crise des finances publiques une pure crise technique. Mm-hmm. C'est-à-dire on dépense trop par rapport à ce qu'on récolte. On voit toujours là une forme de dérèglement des ressorts moraux d'une société, des dérèglements des ressorts existentiels d'une société, un dérèglement des désirs, de la capacité à dire non, parce que les désirs sont toujours plus grands que la capacité d'y répondre. Donc oui, certainement depuis Rome, au moment de l'Ancien Régime, je reviens simplement, ce n'est pas sans lien avec ce qui nous conduira à la Révolution, et la crise des années présentes, la crise évidemment de l'État-providence. Dimitri disait les 50 ans des budgets déficitaires, de l'accumulation de la dette, c'est absolument essentiel. Que s'est-il passé finalement si on décide d'avoir une sociologie de ce basculement dans une société de l'endettement, la spirale de l'endettement généralisé, hein, société spiraline? Alors, premier élément, eh bien, c'est la transformation systématique dans la logique des droits de tous les désirs en besoins, les besoins en droits et les droits en droits fondamentaux. Dès lors que vous possédez des droits fondamentaux, sociaux et économiques opposables à l'État. Dès lors que vous créez une situation où vous êtes en droit de demander à la collectivité de financer telle ou telle revendication, parce que ce n'est pas une revendication catégorielle, c'est un droit fondamental et si on vous le conteste, eh bien, on vous prive de votre humanité. Et vous êtes vous-même inhumain. Mais dès lors qu'on crée ça, on crée les conditions de ce que j'appelle le braquage fiscal généralisé. C'est-à-dire l'État doit sans cesse étendre ses ressources pour être capable de répondre à ces demandes qui s'accumulent, qui sont nombreuses. Ajoutez une chose qui est très importante là-dedans, l'État-providence, on le voit partout en Occident, plus l'État avançait, plus la société civile, plus la famille, plus les communautés fondaient, se détricotaient, perdait de l'importance. Mais quand l'État récupère sans cesse des fonctions sociales qui appartenaient traditionnellement à la société, aux organisations caritatives, aux organisations religieuses, aux familles, à tout ce qu'on peut imaginer, l'État ne cesse d'étendre ses fonctions, ne cesse d'étendre ses prérogatives, mais il a besoin de toujours plus d'argent provenant de la population. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu à partir de cette logique? Mais l'État en est venu. J'ajoute une chose. On est dans une société où les lobbies se sont multipliés. Des lobbies qui sont capables de tenir l'État en otage. Si tu me donnes pas ce que je te demande, eh bien, je suis capable de déclencher une grève. Et je suis capable de déclencher une autre grève. On l'évoquait il y a un instant. Donc, la capacité de tenir l'État en otage, si vous répondez pas à mes aspirations particulières, donc dépenser, braquer le commun est mortel, au final, on se retrouve dans un État qui est pris dans une logique déficitaire et d'endettement structurel dont il ne peut sortir sans s'effondrer, sans se récrouler. Voilà pourquoi je parle de logique de décadence.
Est-ce que décadence, le mot n'est pas trop fort?
Je ne pense pas. Je pense qu'il est même très exact, hélas. Le phénomène d'obésité bureaucratique. On est dans une logique où l'État ne cesse de croître pour croître. À partir d'un certain niveau de croissance, la bureaucratie ne cesse de trouver de nouvelles raisons pour justifier sa croissance. Ça crée une société, et là, c'est presque la nouvelle lutte des classes, celle que Karl Marx n'avait pas imaginée. En d'un côté, ceux qui travaillent véritablement, et ceux de l'autre côté, la société de l'assistanat. Vous noterez que plus le bloc de l'électorat de l'assistanat s'étend, plus la capacité à mener des réformes libérales pour être capable de redresser une société se décompose. J'ajoute une chose, si l'État décidait demain de véritablement couper dans les dépenses publiques parce que c'est nécessaire, vous avez la condition de la révolte. Parce que vous avez une bonne partie de la société qui vit sur la perfusion publique, sur la dépense publique. Donc vous coupez ça. Eh bien, vous avez les conditions de la révolte et l'État est d'un coup impuissant. Donc, paralysie politique. La seule action de politique aujourd'hui, c'est de dépenser plus. Un grand emprunt. C'est des promesses dans des années étranges. On va faire un grand emprunt. On va s'endetter pour vous, mes enfants. Mais au final, oui, je crois qu'on peut parler de décadence. Et demain, peut-être d'autres choses qui seront encore pires.
Merci beaucoup. Sympa. Excellente suite de cours.
Bonne nouvelle ce soir.
L'heure des pros de avec Pascal Pro. Merci à tous.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.